Good Morning Business, le grand entretien.
Et à 8h17, notre invité, c'est Patrick Martin, le président délégué du MEDEF. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous ce matin. On a plein de questions. On va commencer par cette réunion hier soir à l'Elysée avec une cinquantaine de patrons de grands groupes industriels français et européens. L'inquiétude d'Emmanuel Macron, il a voulu rassurer les patrons. L'inquiétude, c'est une nouvelle vague de délocalisation. On appelait ça ce matin délocalisation énergétique. C'est-à-dire que des entreprises, on en a vu, Safran qui s'interroge, est-ce que je continue mon projet, des Japonais aussi, comme Toshiba, pensent peut-être partir de France parce que l'énergie y est trop chère.
Je confirme. Plus encore, ce qu'on observe, c'est une forme d'attentisme, c'est-à-dire des projets d'investissement qui sont suspendus, pas encore annulés.
Non, c'est ça.
Du fait de ce différentiel de coût de l'énergie qui va être structurel, qui va être dans la durée, hein, indépendamment des variations très fortes, d'ailleurs, qu'on observe au jour le jour sur les marchés de l'énergie. Donc, quand vous avez aux États-Unis, c'est vrai au Canada aussi, une énergie qui est 6 à 8 fois moins chère et qui le restera, puisqu'ils ont des ressources et une politique qui conduiront à ça, évidemment, ça interroge les investisseurs, en tout cas ceux qui ont une dimension internationale. C'est encore beaucoup plus compliqué pour ceux qui ne peuvent pas transférer, délocaliser des productions.
Donc quand vous entendez Emmanuel Macron faire toute une liste de souhaits, hein, on en est quand même qu'au souhait, s'entendre avec les Allemands sur le front énergétique, presque supplier les industriels de rester, vous dites ça suffit ça...
On a deux dimensions. On a la dimension européenne et là, le climat se détend. Le climat, pas la météo.
Oui. Hein.
C'est-à-dire qu'après probablement un phénomène de panique ou de sidération de la part des Allemands, du gouvernement allemand, mais des entreprises elles-mêmes et de du BDI, hein, leurs représentants, on sent ces derniers jours une volonté de dialoguer. Alors, est-ce que l'Union européenne a passé un message, je dirais, ferme?
C'est-à-dire qu'ils se sont crispés en disant notre industrie est très en danger.
L'Allemagne et le reste du monde, on peut le comprendre, hein, parce que quand on voit le poids de l'industrie en Allemagne, quand on voit leur dépendance au gaz russe, il n'est pas illégitime qu'il y ait eu ce moment, je dirais, de panique. Bon, là, les choses semblent se restaurer, le dialogue est renoué. Il y a un petit signal qui peut paraître éloigné du sujet de l'énergie, mais le fait que, avec quelques réserves, le dossier du SCAF, l'avion de combat du futur, ouais, se soit débloqué.
Alors, vous êtes sûr qu'il est débloqué? Parce que Dassault a dit
Eric Trappier, qui est en première loge, est beaucoup plus averti que moi, donc
bon.
a émis quelques réserves. Mais il y a eu un signal politique, quand même, qui, dans le contexte, c'est un signal faible, plutôt encourageant.
Est-ce que cette détente que vous notez côté patron allemand, c'est très important, est-ce qu'elle va permettre de faire avancer les dossiers européens? Par exemple, une des promesses, effectivement, hier soir d'Emmanuel Macron, c'est de promettre aux industriels un prix plafond de l'énergie en Europe. On n'y est pas parvenu, hein, il y a quelques semaines. Est-ce que vous pensez, il dit le président, d'ici la fin de l'année, on aura un accord en Europe sur ce thème-là. C'est possible, ça?
Alors là aussi, on était à la fois dépité et résigné parce qu'on voyait que rien n'avançait. Ce message du président de la République est certainement fondé. Il sait des choses qu'on ne sait pas encore. Vous-même peut-être, en tout cas nous, au MEDEF, à ce jour. Hein.
Ouais.
Donc on espère bien que c'est étayé. De toute façon, il y a une impérieuse nécessité parce que sinon, l'Europe vole en éclats, y compris sur le plan politique.
Mais quand on parle de Buy European Act, c'est la promesse d'Emmanuel Macron, qu'est-ce qu'on met dedans? On n'a pas les moyens d'aller aussi fort, de taper aussi fort que les Américains. Le président de la République parle carrément des États-Unis qui nous font une guerre économique pour récupérer nos industries.
Oui, alors il y a un bras de fer entre l'Europe et les États-Unis, singulièrement dans le cas du projet IRA et singulièrement sur les voitures électriques.
Mm-hmm. Inflation Reduction Act.
Absolument, oui. Mm. Et donc ça devrait, en bonne logique, se régler au niveau de l'OCDE, à part qu'à l'heure actuelle, les institutions internationales, on le voit malheureusement sur beaucoup de champs.
Voire de l'OMC même, hein.
De l'OMC, pardon, ouais. L'OCDE et l'OMC. Mais il faut engager ce bras de fer. Hein. Faute de quoi, les Américains vont faire ce qu'ils savent faire, hein, c'est-à-dire imposer leurs règles, imposer leur puissance. Et ça, il n'en est pas question. Pour autant, il ne faut pas aller vers le protectionnisme, parce que les Américains investissent en Europe, on exporte vers les États-Unis. Espérons que malgré les derniers événements politiques aux États-Unis, c'est-à-dire la prise de majorité des Républicains à la Chambre des représentants, ça ne dégénère pas. Parce que là, si on se coupe de la Russie, si on se coupe des États-Unis, plus globalement de l'Amérique du Nord, là, on aura des effets récessifs extrêmement importants.
Au fond, on pensait que cette fragmentation du monde avec deux blocs, un bloc chinois, le bloc américain, on serait entraîné dans cette dynamique occidentale. En fait, ce qu'on voit, c'est que pas du tout. C'est qu'avec cette crise de l'énergie, il y a aussi un affrontement au sein du camp occidental sur la relocalisation des industries.
Absolument, absolument. Alors ça a commencé aux États-Unis avec Trump, hein,
ouais.
Mais plutôt à l'égard de la Chine, plus sournoisement déjà quand même à l'égard de l'Europe.
De l'Europe, hein. Ouais.
Donc il faudrait pas que ça s'exacerbe. Je suis pas sûr que ce soit très bon pour les Américains eux-mêmes dans la durée. Il y a de l'affichage politique aussi derrière tout ça. Enfin, commençons par le commencement. Il faut recréer le lien, la solidarité européenne. Et je le redis, le fait qu'il y ait quelques signes d'ouverture et de compréhension de la part de l'Allemagne ces derniers jours, c'est quand même déterminant.
On a nos sujets franco-français de réforme structurelle pendant ce temps-là en France, avec la réforme de l'assurance chômage et puis la réforme des retraites. Ça a été présenté hier avec une baisse de l'indemnisation dans la durée, pas sur les montants, mais vraiment sur la durée d'indemnisation. Cette réforme, vous la soutenez de A à Z ?
On la soutient. On la soutient, on prend acte de ce qu'on sait tous. Hein. 7,3% de taux de chômage, ça a baissé, mais ça reste très élevé. Et en regard, 400 à 500 000 postes ouverts qui ne trouvent pas preneur, d'ores et déjà 55 000 dans l'industrie. Donc à un moment donné, il faut reconnecter ces différents sujets.
Et vous pensez que c'est parce que les gens perçoivent des indemnités chômage trop longtemps qu'ils ne cherchent pas activement du travail?
C'est pas la seule explication. On travaille d'ailleurs avec les organisations syndicales sur d'autres sujets. On avance très bien, par exemple, sur la formation professionnelle. On sait qu'il y a une inadéquation partielle des formations elles-mêmes, des dispositifs aux besoins de l'économie et à l'employabilité des salariés. On avance sur le sujet du logement, on avance sur le sujet de la mobilité. Donc, ça ne réglera pas tout. Mais on restera dans un système qui est dans la bonne moyenne de ce qu'on observe en Europe. Il n'est pas touché ni à la durée de cotisation, ni au salaire de journalier de référence, ni au montant des indemnités. Donc c'est un réglage qui est très significatif malgré tout, mais qui ne fout pas en l'air, si je peux me permettre.
Ouais, parce que 18 au lieu de 24, c'est très significatif, effectivement, pour les Français.
Oui, mais alors ce qu'on sait aussi, c'est que il y a un retour à l'emploi qui augmente au fur et à mesure qu'on se rapproche de l'échéance de la période d'indemnisation.
Il y a la question des seniors, un volet qui est aussi lié avec la réforme des retraites. Il y a une responsabilité des entreprises dans le traitement des seniors dans leur rang avec l'utilisation de la retraite anticipée, parfois à tort ou trop. On met les gens en retraite anticipée
et c'est l'État qui paye
en fait et qui utilise l'assurance chômage. Comment on fait pour changer de culture?
Alors déjà, il faut bien établir le lien, effectivement, la cohérence d'une certaine manière entre cette réforme de l'assurance chômage et les discussions en cours sur la réforme des retraites. Alors, de fait, il y a une forme de connivence, dans certains cas, de l'entreprise et du salarié senior, pour le mettre non pas en pré-retraite, mais au chômage, en sachant que, jusque-là, il peut bénéficier de 36 mois, 3 ans d'indemnité chômage.
Donc, on le met au chômage 3 ans avant sa retraite, comme ça
Mais souvent, à la demande de l'intéressé.
Ouais. Hein. Et donc, c'est pour ça que ça ne vous choque pas que cette restriction de la durée d'indemnisation, elle touche aussi les seniors, parce que hier, c'est ce qui a fait le plus polémique, au fond.
Et oui, et il va falloir que les entreprises elles-mêmes, comme elles doivent le faire dans le cadre de la réforme des retraites sur le sujet des seniors, de l'employabilité des seniors, de l'accompagnement, de la formation des seniors, il va falloir que certaines entreprises révisent certains comportements qui étaient un peu déviants. Écoutez, je vais être très sincère, il a pu arriver que ça se produise dans ma propre entreprise.
Ah oui ?
Eh bien, je ne le ferai plus.
Vous ne pourrez plus le faire, de toute façon.
Et voilà.
Bon, au moins, comme ça.
Il y a un vrai sujet culturel. Hein. C'est-à-dire qu'il faut quand même réussir à faire comprendre aux entreprises qu'un senior, ce n'est pas forcément quelqu'un en attente de retraite, qu'on peut en faire quelque chose. C'est plus compliqué que juste les règles, la loi et les questions de réforme structurelle.
Oui, alors, si on veut positiver, c'est aussi un moyen de répondre à ce sujet de pénurie de main-d'œuvre. Mmh. Et c'est un moyen de répondre aussi à ce sujet essentiel de formation. Donc, pour les entreprises, dans l'intérêt des entreprises, il faut effectivement qu'elles considèrent mieux les seniors, qu'elles les utilisent au sens positif du terme, y compris pour intégrer, accompagner, former les juniors. Et donc, il y a des voies. Il y a des voies. Ça ne va pas se faire d'un claquement de doigts, mais moi, je suis assez confiant.
Et est-ce que vous demandez, justement, pour aider les entreprises à accompagner les fins de carrière, à la baisse des cotisations pour notamment les plus de X années?
C'est une des options. Nous, on a beaucoup regardé ce qui se passe en particulier dans les pays nordiques,
ouais,
où de longue date, il y a une forme de consensus, y compris lorsque des seniors disent « moi, je veux une charge de travail moindre, une responsabilité moindre, à la limite, je suis un peu moins payé, je travaille moins longtemps ». Et puis, il peut y avoir ce sujet, effectivement, d'une baisse des cotisations pour les seniors, de sorte que, alors que les seniors, dans un certain nombre de travaux, ont moins de productivité, il faut le dire, ça m'arrive peut-être, peut-être que ça coûte moins cher à l'entreprise et qu'à partir de là, elles ne soient pas dissuadées de garder les seniors. Il faut garder les seniors dans l'entreprise.
Dernière question, le FMI nous a tapé sur les doigts, a tapé la France sur les doigts hier pour ne pas faire le nécessaire en termes de réduction des déficits publics, c'est aussi la position du MEDEF?
Oui, qui a déjà été exprimé. Enfin, par ailleurs, le FMI a été plutôt positif sur les perspectives de croissance.
Oui, 0,7, 1%.
Vous retenez la même chose que Bruno Le Maire, le positif de la note.
Non, mais il faut aussi voir les choses positives, hein, parce que sinon on se tape la tête contre les murs et puis on arrête de travailler, ce qui n'est pas la bonne solution.
Merci beaucoup Patrick Merci. Martin, président délégué du MEDEF, d'avoir été l'invité de Good Morning Business.